Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 5, suite du chapitre 1. Vous vous imaginez bien que si j'assistais aux prières que les musulmans font dans leur mosquée et remplissais les autres devoirs de leur religion, ce n'était que par pure grimace. Je conservais une volonté déterminée de rentrer dans le sein de l'Église, et pour cet effet, je me proposais de me retirer un jour en Espagne ou en Italie avec les richesses que j'aurais amassées. En attendant, je vivais fort agréablement. J'étais logé dans une belle maison, j'avais des jardins superbes, un grand nombre d'esclaves et de fort jolies femmes dans mon sérail. Quoique l'usage du vin soit défendu en ce pays-là aux mahométans, ils ne laissent pas pour la plupart d'en boire en secret. Pour moi, j'en buvais sans façon, comme font tous les renégats. Je me souviens que j'avais deux compagnons de débauche, avec qui je passais souvent la nuit à table. L'un était juif et l'autre arabe. Je les croyais honnêtes gens, et dans cette opinion, je vivais avec eux sans contrainte. Un soir, je les invitai à souper chez moi. Il m'était mort ce jour-là un chien que j'aimais passionnément. Nous lavâmes son corps et l'enterrâmes avec toute la cérémonie qui s'observe aux funérailles des mahométans. Ce que nous en faisions n'était pas pour tourner en ridicule la religion musulmane. C'était seulement pour nous réjouir et satisfaire une folle envie qui nous prit, dans la débauche, de rendre les derniers devoirs à mon chien. Cette action pourtant me pense à perdre, comme vous l'allez voir. Le lendemain, il vint chez moi un homme qui me dit « Seigneur Sidi Ali, une affaire importante m'amène chez vous. Monsieur le cadi veut vous parler. Prenez, s'il vous plaît, la peine de venir chez lui tout à l'heure. » « Apprenez-moi de grâce ce qu'il me veut, » lui répondis-je. « Il vous l'apprendra lui-même, » reprit-il. « Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'un marchand arabe qui soupa hier avec vous lui a donné avis de certaines impiétés par vous commises à l'occasion d'un chien que vous avez enterré. Vous savez bien de quoi il s'agit. C'est pour cela que je vous somme de comparaître aujourd'hui devant ce juge, faute de quoi je vous avertis qu'il sera procédé criminellement contre vous. » Il sortit en achevant ses paroles et me laissa fort étourdi de sa sommation. L'arabe n'avait aucun sujet de se plaindre de moi, et je ne pouvais comprendre pourquoi ce traître m'avait joué ce sale tour. La chose néanmoins méritait quelque attention. Je connaissais le cadi pour un homme sévère en apparence, mais au fond peu scrupuleux, et de plus avare. Je mis 200 sultanins d'or dans ma bourse et j'allai trouver ce juge. Il me fit entrer dans son cabinet et me dit d'un air rébarbatif « Vous êtes un impie, un sacrilège, un homme abominable. Vous avez enterré un chien comme un musulman. Quelle profanation! Est-ce donc ainsi que vous respectez nos cérémonies les plus saintes? Et ne vous êtes-vous fait mahométan que pour vous moquer de nos pratiques de dévotion ?»« Monsieur le cadi, » lui répondis-je, l'arabe qui vous a fait un si mauvais rapport, ce faux ami, est complice de mon crime, si c'en est un, d'accorder les honneurs de la sépulture à un fidèle domestique, à un animal qui possédait 1000 bonnes qualités. Il aimait tant les personnes de mérite et de distinction qu'en mourant même, il a voulu leur donner des marques de son amitié. Il leur laisse tous ses biens par un testament qu'il a fait et dont je suis l'exécuteur. Il lègue à l'un 20 écus, 30 à l'autre, et il ne vous a point oublié, monseigneur, poursuivis-je en tirant ma bourse. Voilà 200 sultanins d'or qu'il m'a chargé de vous remettre. Le cadi, à ce discours, perdit sa gravité. Il ne put s'empêcher de rire, et comme nous étions seuls, il prit sans façon la bourse et me dit en me renvoyant « Allez, seigneur Sidi Ali, vous avez fort bien fait d'inhumer avec pompe et honneur un chien qui avait tant de considération pour les honnêtes gens. » Je me tirai d'affaire par ce moyen, et si cela ne me rendit pas plus sage, j'en devins du moins plus circonspect. Je ne fis plus de débauche avec l'arabe, ni même avec le juif. Je choisis pour boire avec moi un jeune gentilhomme de Livourne, qui était mon esclave. Il s'appelait Azarini. Je ne ressemblais point aux autres renégats, qui font plus souffrir de maux aux esclaves chrétiens que les Turcs eux-mêmes. Tous mes captifs attendaient assez patiemment qu'on les racheta. Je les traitais, à la vérité, si doucement, que quelquefois ils me disaient qu'ils appréhendaient plus de changer de patron qu'ils ne soupiraient après la liberté. Quelque charme qu'elle ait pour les personnes qui sont dans l'esclavage. Un jour, les vaisseaux du pacha revinrent avec des prises considérables. Ils amenaient plus de 100 esclaves, de l'un et de l'autre sexe, qu'ils avaient enlevés sur les côtes d'Espagne. Soliman n'en garda qu'un très petit nombre, et tout le reste fut vendu. J'arrivai dans la place où la vente s'en faisait, et j'achetai une fille espagnole de 10 à 12 ans. Elle pleurait à chaudes larmes et se désespérait. J'étais surpris de la voir, à son âge, si sensible à sa captivité. Je lui dis en castillan de modérer son affliction, et je l'assurai qu'elle était tombée entre les mains d'un maître qui ne manquait pas d'humanité, quoiqu'il eût un turban. La petite personne, toujours occupée du sujet de sa douleur, ne m'écoutait pas. Elle ne faisait que gémir, que se plaindre du sort, et de temps en temps elle s'écriait d'un air attendri « Oh, ma mère, pourquoi sommes-nous séparés? Je prendrais patience si nous étions toutes deux ensemble. » En prononçant ces mots, elle tournait sa vue vers une femme de 45 à 50 ans que l'on voyait à quelques pas d'elle et qui, les yeux baissés, attendait dans un morne silence que quelqu'un l'achetât. Je demandai à la jeune fille si la personne qu'elle regardait était sa mère. « Hélas, oui, Seigneur, » me répondit-elle. « Au nom de Dieu, faites que je ne la quitte point. »« Eh bien, mon enfant, lui dis-je, si pour vous consoler il ne faut que vous réunir l'une et l'autre, vous serez bientôt satisfaite. » En même temps, je m'approchai de la mère pour la marchander, mais je ne l'eus pas sitôt envisagée que je reconnus, avec toute l'émotion que vous pouvez penser, les traits, les propres traits de Lucinde. « Juste ciel !» dis-je en moi-même. « C'est ma mère, je n'en saurais douter. » Pour elle, soit qu'un vif ressentiment de ses malheurs ne lui fît voir que des ennemis dans les objets qui l'environnaient, soit que mon habit me déguisa, ou bien que je fusse changé depuis 12 années que je ne l'avais vue, elle ne me remit point. Après l'avoir aussi achetée, je l'amenai avec sa fille à ma maison. Là, je voulus leur donner le plaisir d'apprendre qui j'étais. « Madame, dis-je à Lucinde, est-il possible que mon visage ne vous frappe point? Ma moustache et mon turban vous font-ils méconnaître Raphaël, votre fils ?» Ma mère tressaillit à ces paroles, me considéra, me reconnut, et nous nous embrassâmes tendrement. J'embrassai ensuite sa fille, qui ne savait peut-être pas plus qu'elle eût un frère, que je savais que j'avais une sœur. « Avouez, dis-je à ma mère, que dans toutes vos pièces de théâtre, vous n'avez pas une reconnaissance aussi parfaite que celle-ci. « Mon fils, me répondit-elle en soupirant, j'ai d'abord eu de la joie de vous revoir, mais ma joie se convertit en douleur. Dans quel état, hélas, vous retrouvais-je? Mon esclavage me fait 1000 fois moins de peine que l'habillement odieux. » « Ah, parbleu, madame !» interrompis-je en riant. « J'admire votre délicatesse. J'aime cela dans une comédienne. »« Eh bon Dieu, ma mère, vous êtes donc bien changée, si ma métamorphose vous blesse si fort la vue. Au lieu de vous révolter contre mon turban, regardez-moi plutôt comme un acteur qui représente sur la scène un rôle de turc. Quoique renégat, je ne suis pas plus musulman que je l'étais en Espagne. » Et dans le fond, je me sens toujours attachée à ma religion. Quand vous saurez toutes les aventures qui me sont arrivées en ce pays-ci, vous m'excuserez. L'amour a fait mon crime. Je sacrifie à ce Dieu. Je tiens un peu de vous, je vous en avertis. Une autre raison encore, ajoutai-je, doit modérer en vous le déplaisir de me voir dans la situation où je suis. Vous vous attendiez à n'éprouver dans Alger qu'une captivité rigoureuse, et vous trouvez dans votre patron un fils tendre, respectueux et assez riche pour vous faire vivre ici dans l'abondance, jusqu'à ce que nous saisissions l'occasion de retourner sûrement en Espagne. demeurer d'accord de la vérité du proverbe qui dit qu'à quelque chose malheur est bon. « Mon fils, me dit Lucinde, puisque vous avez dessein de repasser un jour dans votre pays et d'y abjurer le mahométisme, je suis toute consolée. Grâce au ciel, continua-t-elle, je pourrai ramener saine et sauve en Castille votre sœur Béatrix. Oui, madame, m'écriai-je, vous le pourrez. Nous irons tous trois, le plus tôt qu'il nous sera possible, rejoindre le reste de notre famille, car vous avez apparemment encore en Espagne d'autres marques de votre fécondité. Non, dit ma mère, je n'ai que vous deux d'enfants, et vous saurez que Béatrix est le fruit d'un mariage des plus légitimes. Et pourquoi, repris-je, avez-vous donné à ma petite sœur cet avantage-là sur moi? Comment avez-vous pu vous résoudre à vous marier? Je vous ai 100 fois entendu dire, dans mon enfance, que vous ne pardonniez point à une jolie femme de prendre un mari. D'autres temps, d'autres soins, mon fils, repartit-elle. Les hommes les plus fermes dans leurs résolutions sont sujets à changer, et vous voulez qu'une femme soit inébranlable dans les siennes. Je vais, poursuivit-elle, vous conter mon histoire depuis votre sortie de Madrid. Alors elle me fit le récit suivant que je n'oublierai jamais. Je ne veux pas vous priver d'une narration si curieuse. « Il y a, dit ma mère, s'il vous en souvient, près de 13 ans que vous quittâtes le jeune Leganèse. Dans ce temps-là, le duc de Medina Celi me dit qu'il voulait un soir souper en particulier avec moi. Il me marqua le jour, j'attendis ce seigneur, il vint, je lui plus. Il me demanda le sacrifice de tous les rivaux qu'il pouvait avoir. Je le lui accordai dans l'espérance qu'il me le paierait bien. Il n'y manqua pas. Dès le lendemain, je reçus de lui des présents qui furent suivis de plusieurs autres qu'il me fit dans la suite. Je craignais de ne pouvoir retenir longtemps dans mes chaînes un homme d'un si haut rang. Et j'appréhendais cela d'autant plus que je n'ignorais pas qu'il était échappé à des beautés fameuses, dont il avait aussitôt rompu que portait les fers. Cependant, loin de prendre de jour en jour moins de goût à mes complaisances, il semblait plutôt y trouver un plaisir nouveau. Enfin, j'avais l'art de l'amuser et d'empêcher son cœur, naturellement volage, de se laisser aller à son penchant. Il y avait déjà 3 mois qu'il m'aimait, et j'avais lieu de me flatter que son amour serait de longue durée. Lorsqu'une femme de mes amies et moi, nous nous rendîmes à une assemblée où il était avec la duchesse son épouse. Nous y allions pour entendre un concert de voix et d'instruments qu'on y faisait. Nous nous plaçâmes par hasard assez près de la duchesse, qui s'avisa de trouver mauvais que j'osasse paraître dans un lieu où elle était. Elle m'envoya dire par une de ses femmes qu'elle me priait de sortir promptement. Je fis une réponse brutale à la messagère. La duchesse, irritée, s'en plaignit à son époux, qui vint à moi lui-même et me dit « Sortez, Lucinde, quand de grands seigneurs s'attachent à de petites créatures comme vous, elles ne doivent pas pour cela s'oublier. Si nous vous aimons plus que nos femmes, nous honorons nos femmes plus que vous. Et toutes les fois que vous serez assez insolente pour vouloir vous mettre en comparaison avec elles, vous aurez toujours la honte d'être traitée avec indignité. » Heureusement, le duc me tint ce cruel discours d'un ton de voix si bas qu'il ne fut point entendu des personnes qui étaient autour de nous. Je me retirai, toute honteuse, et je pleurai de dépit d'avoir essuyé cet affront. Pour surcroît de chagrin, les comédiens et les comédiennes apprirent cette aventure dès le soir même. On dirait qu'il y a chez ces gens-là un démon qui se plaît à rapporter aux uns tout ce qui arrive aux autres. Un comédien, par exemple, a-t-il fait dans une débauche quelque action extravagante? Une comédienne vient-elle de passer bail avec un riche galant? La troupe en est aussitôt informée. Tous mes camarades surent donc ce qui s'était passé au concert, et Dieu sait s'ils se réjouirent bien à mes dépens. Il règne parmi eux un esprit de charité qui se manifeste dans ces sortes d'occasions. Je me mis pourtant au-dessus de leur caquet, et je me consolai de la perte du duc de Medina Celi, car je ne le revis plus chez moi, et j'appris même, peu de jours après, qu'une chanteuse en avait fait la conquête. Lorsqu'une dame de théâtre a le bonheur d'être en vogue, les amants ne sauraient lui manquer. Et l'amour d'un grand seigneur, ne dura-t-il que 3 jours, lui donne un nouveau prix. Je me vis obsédé d'adorateur, sitôt qu'il fut notoire à Madrid que le duc avait cessé de me voir. Les rivaux que je lui avais sacrifiés, plus épris de mes charmes qu'auparavant, revinrent en foule sur les rangs. Je reçus l'hommage de 1000 autres cœurs. Je n'avais jamais été tant à la mode. De tous les hommes qui brillaient mes bonnes grâces, un gros Allemand, gentilhomme du duc d'Ossune, me parut un des plus empressés. Ce n'était pas une figure fort aimable, mais il s'attira mon attention par 1 millier de pistoles qu'il avait amassées au service de son maître et qu'il prodigua pour mériter d'être sur la liste de mes amants fortunés. Ce bon sujet se nommait Brutendorf. Tant qu'il fit de la dépense, je le reçus favorablement. Dès qu'il fut ruiné, il trouva ma porte fermée. Mon procédé lui déplut. Il vint me chercher à la comédie pendant le spectacle. J'étais derrière le théâtre. Il voulut me faire des reproches, je lui ris au nez. Il se mit en colère et me donna un soufflet en franc allemand. Je poussai un grand cri. J'interrompis l'action. Je parus sur le théâtre et, m'adressant au duc d'Ossune, qui ce jour-là était à la comédie avec la duchesse sa femme, je lui demandai justice des manières germaniques de son gentilhomme. Le duc ordonna de continuer la comédie et dit qu'il entendrait les parties quand on aurait achevé la pièce. D'abord qu'elle fut finie, je me représentai fort ému devant le duc et j'exposai vivement mes griefs. Pour l'allemand, il n'employa que 2 mots pour sa défense. Il dit qu'au lieu de se repentir de ce qu'il avait fait, il était homme à recommencer. Parti, oui, le duc d'Ossune dit au Germain « Brutendorf, je vous chasse de chez moi et vous défends de paraître à mes yeux, non pour avoir donné un soufflet à une comédienne, mais pour avoir manqué de respect à votre maître et à votre maîtresse, et avoir osé troubler le spectacle en leur présence. » Ce jugement me demeura sur le cœur. Je conçus un dépit mortel de ce qu'on ne chassait pas l'allemand pour m'avoir insulté. Je m'imaginais qu'une pareille offense faite à une comédienne devait être aussi sévèrement punie qu'un crime de lèse-majesté, et j'avais compté que le gentilhomme subirait une peine afflictive. Ce désagréable événement me détrompa, et me fit connaître que le monde ne confond pas les acteurs avec les rôles qu'ils représentent. Cela me dégoûta du théâtre. Je résolus de l'abandonner et d'aller vivre loin de Madrid. Je choisis la ville de Valence pour le lieu de ma retraite, et je m'y rendis incognito avec la valeur de 20 000 ducats que j'avais tant en argent qu'en pierreries. Ce qui me parut plus que suffisant pour m'entretenir le reste de mes jours, puisque j'avais dessein de mener une vie retirée. Je louai à Valence une petite maison et pris pour mes domestiques une femme et un page à qui je n'étais pas moins inconnu qu'à toute la ville. Je me donnai pour veuve d'un officier de chez le roi, et je dis que je venais m'établir à Valence sur la réputation que ce séjour avait d'être un des plus agréables d'Espagne. Je ne voyais que très peu de monde, et je tenais une conduite si régulière qu'on ne me soupçonna point d'avoir été comédienne. Malgré pourtant le soin que je prenais de me cacher, je m'attirai les regards d'un gentilhomme qui avait un château près de Paterna. C'était un cavalier assez bien fait, de 35 à 40 ans, mais un noble fort endetté, ce qui n'est pas plus rare dans le royaume de Valence que dans beaucoup d'autres pays. Ce seigneur Hidalgo, trouvant ma personne à son gré, voulut savoir si d'ailleurs j'étais son fait. Il découpla des grisons pour courir aux enquêtes, et il eut le plaisir d'apprendre, par leur rapport, qu'avec un minois peu dégoûtant, j'étais une douairière assez opulente. Là-dessus, jugeant que je lui convenais, il envoya bientôt chez moi une bonne vieille, qui me dit de sa part que, charmé de ma vertu autant que de ma beauté, il m'offrait sa foi, et qu'il était prêt à me conduire à l'hôtel si je voulais bien devenir sa femme. Je demandai 3 jours pour me consulter là-dessus. Je m'informai du gentilhomme, et le bien qu'on me dit de lui, quoiqu'on ne me cédât point l'état de ses affaires, me détermina sans peine à l'épouser peu de temps après. Don Manuel de Xérica, c'est ainsi que mon époux s'appelait, me mena d'abord à son château qui avait un air antique dont il était fort vain. Il prétendait qu'un de ses ancêtres l'avait autrefois fait bâtir, et il concluait de là qu'il n'y avait point de maison plus ancienne en Espagne que celle de Xérica. Mais un si beau titre de noblesse allait être détruit par le temps. Le château, étayé en plusieurs endroits, mena ses ruines. Quel bonheur pour Don Manuel de m'avoir épousé! La moitié de mon argent fut employée aux réparations, et le reste servit à nous mettre en état de faire une brillante figure dans le pays. Me voilà donc, pour ainsi dire, dans un nouveau monde, changée en nymphe de château, en dame de paroisse. Quelle métamorphose! J'étais trop bonne actrice pour ne pas bien soutenir la splendeur que mon rang répandait sur moi. Je prenais de grands airs, des airs de théâtre, qui faisaient concevoir dans le village une haute opinion de ma naissance. Qu'on se serait égayé à mes dépens si l'on eût été au fait sur mon compte. La noblesse des environs m'aurait donné 1000 brocarts, et les paysans auraient bien rabattu des respects qu'ils me rendaient. Il y avait déjà près de 6 années que je vivais, fort heureuse, avec Don Manuel, lorsqu'il mourut. Il me laissa des affaires à débrouiller, et votre sœur Béatrix, qui avait 4 ans passés. Le château, qui était notre unique bien, se trouva par malheur engagé à plusieurs créanciers, dont le principal se nommait Bernard Astuto. Qu'il soutenait bien son nom. Il exerçait à Valence une charge de procureur, qu'il remplissait en homme consommé dans la procédure, et qui même avait étudié en droit pour apprendre à mieux faire des injustices. Le terrible créancier. Un château sous la griffe d'un semblable procureur est comme une colombe dans les serres d'un Milan. Aussi le seigneur Astuto, dès qu'il sut la mort de mon mari, ne manqua pas de former le siège du château. Il l'aurait indubitablement fait sauter par les mines que la chicane commençait à faire, si mon étoile ne s'en fût mêlée. Mais mon bonheur voulut que l'assiégeant devint mon esclave. Je le charmai dans une entrevue que j'eus avec lui au sujet de ses poursuites. Je n'épargnai rien, je l'avoue, pour lui donner de l'amour, et l'envie de sauver ma terre me fit essayer sur lui tous les airs de visage qui m'avaient tant de fois si bien réussi. Avec tout mon savoir-faire, je craignais de rater le procureur. Il était si enfoncé dans son métier qu'il ne paraissait pas susceptible d'une amoureuse impression. Cependant, ce sournois, ce grimaud, ce gratte-papier prenait plus de plaisir que je ne pensais à me regarder. « Madame, me dit-il, je ne sais point faire l'amour. Je me suis toujours tellement appliqué à ma profession que cela m'a fait négliger d'apprendre les us et coutumes de la galanterie. Je n'ignore pourtant pas l'essentiel. Et pour venir au fait, je vous dirai que, si vous voulez m'épouser, nous brûlerons toute la procédure. J'écarterai les créanciers qui se sont joints à moi pour faire vendre votre terre. Vous en aurez le revenu et votre fille la propriété. » L'intérêt de Béatrix et le mien ne me permirent pas de balancer. J'acceptai la proposition. Le procureur tint sa promesse, il tourna ses armes contre les autres créanciers et m'assura la possession de mon château. C'était peut-être la première fois de sa vie qu'il eût bien servi la veuve et l'orphelin. Je devins donc procureuse, sans toutefois cesser d'être dame de paroisse. Mais ce nouveau mariage me perdit dans l'esprit de la noblesse de Valence. Les femmes de qualité me regardèrent comme une personne qui avait dérogé et ne voulurent plus me voir. Il fallut m'en tenir au commerce des bourgeoises, ce qui ne laissa pas d'abord de me faire un peu de peine, parce que j'étais accoutumée depuis 6 ans à ne fréquenter que des dames de distinction. Je m'en consolai pourtant bientôt. Je fis connaissance avec une greffière et 2 procureuses dont les caractères étaient fort plaisants. Il y avait dans leur manière un ridicule qui me réjouissait. Ces petites demoiselles se croyaient des femmes hors du commun. Hélas, disais-je quelquefois en moi-même, quand je les voyais s'oublier, voilà le monde. Chacun s'imagine être au-dessus de son voisin. Je pensais qu'il n'y avait que des comédiennes qui se méconnussent. Les bourgeoises, à ce que je vois, ne sont pas plus raisonnables. Je voudrais, pour les punir, qu'on les obligeât à garder dans leur maison les portraits de leurs aïeux. Mort de ma vie, elles ne les placeraient pas dans l'endroit le plus éclairé. Après 4 années de mariage, le seigneur Bernard Astuto tomba malade et mourut sans enfant. Avec le bien dont il m'avait avantagé en m'épousant, et celui que je possédais déjà, je me vis une riche douairière. Aussi, j'en avais la réputation, et sur ce bruit, un jeune homme sicilien, nommé Colifichini, résolut de s'attacher à moi pour me ruiner ou pour m'épouser. Il me laissa la préférence. Il était venu de Palerme pour voir l'Espagne. Et après avoir satisfait sa curiosité, il attendait, disait-il, à Valence l'occasion de repasser en Sicile. Le cavalier n'avait pas 25 ans. Il était bien fait, quoique petit, et sa figure enfin me revenait. Il trouva moyen de me parler en particulier, et je vous l'avouerai franchement, j'en devins folle dès le premier entretien que j'eus avec lui. De son côté, le petit fripon se montra fort épris de mes charmes. Je crois, Dieu me pardonne, que nous nous serions mariés sur le champ si la mort du procureur, encore toute récente, m'eût permis de contracter sitôt un nouvel engagement. Mais depuis que je m'étais mise dans le goût des Hyménées, je gardais des mesures avec le monde. Nous convînmes donc de différer notre mariage de quelque temps par bienséance. Cependant, Colifichini me rendait des soins, et son amour, loin de se ralentir, semblait devenir plus vif de jour en jour. Le pauvre garçon n'était pas trop bien en argent comptant, je m'en aperçus, et il ne manqua plus d'espèces. Outre que j'avais presque 2 fois son âge, je me souvenais d'avoir fait contribuer les hommes dans ma jeunesse, et je regardais ce que je donnais comme une façon de restitution qui acquittait ma conscience. Nous attendîmes, le plus patiemment qu'il nous fût possible, le temps que le respect humain prescrit aux veuves pour se remarier. Lorsqu'il fut arrivé, nous allâmes à l'hôtel où nous nous liâmes l'un à l'autre par des nœuds éternels. Nous nous retirâmes ensuite dans mon château, et je puis dire que nous y vécûmes pendant 2 années, moins en époux qu'en tendres amants. Mais, hélas, nous n'étions pas unis tous deux pour être longtemps si heureux. Une pleurésie emporta mon cher Colifichini. J'interrompis en cet endroit ma mère. « Eh quoi, madame ? » lui dis-je. « Votre 3e époux mourut encore ? Il faut que vous soyez une place bien meurtrière. »« Et que voulez-vous, mon fils ? » me répondit-elle. « Puis-je prolonger des jours que le ciel a comptés ? Si j'ai perdu 3 maris, je n'y saurais que faire. J'en ai fort regretté 2. Celui que j'ai le moins pleuré, c'est le procureur. Comme je ne l'avais épousé que par intérêt, je me consolais facilement de sa perte. Mais, continua-t-elle, pour revenir à Colifichini, je vous dirai que 2 mois après sa mort, je voulus aller voir par moi-même, auprès de Palerme, une maison de campagne qu'il m'avait assignée pour douaire dans notre contrat de mariage. Je m'embarquai avec ma fille pour passer en Sicile, mais nous avons été prises sur la route par les vaisseaux du pacha d'Alger. On nous a conduites dans cette ville. Heureusement pour nous, vous vous êtes trouvés dans la place où l'on voulait nous vendre. Sans cela, nous serions tombés entre les mains de quelques patrons barbares qui nous auraient maltraités, et chez qui, peut-être, nous aurions été toute notre vie en esclavage, sans que vous eussiez entendu parler de nous. » Tel fut le récit que fit ma mère. Après quoi, messieurs, je lui donnai le plus bel appartement de ma maison, avec la liberté de vivre comme il lui plairait, ce qui se trouva fort de son goût. Elle avait une habitude d'aimer, formée par tant d'actes réitérés, qu'il lui fallait absolument un amant ou un mari. Elle jeta d'abord les yeux sur quelques-uns de mes esclaves, mais Ali Péglin, renégat grec qui venait quelquefois au logis, attira bientôt toute son attention. Elle conçut pour lui plus d'amour qu'elle n'en avait jamais eu pour Colifichini, et elle était si stylée à plaire aux hommes qu'elle trouva le secret de charmer encore celui-là. Je ne fis pas semblant de m'apercevoir de leur intelligence. Je ne songeais alors qu'à m'en retourner en Espagne. Le pacha m'avait déjà permis d'armer un vaisseau pour aller en course et faire le pirate. Cet armement m'occupait. Et 8 jours devant qu'il fût achevé, je dis à Lucinde « Madame, nous partirons d'Alger incessamment. Nous allons perdre de vue ce séjour que vous détestez. » Ma mère pâlit à ces paroles et garda un silence glacé. J'en fus étrangement surpris. « Que vois-je ? » lui dis-je. « D'où vient que vous m'offrez un visage épouvanté ? Il semble que je vous afflige au lieu de vous causer de la joie. Je croyais vous annoncer une nouvelle agréable en vous apprenant que j'ai tout disposé pour notre départ. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas de repasser en Espagne ?»« Non, mon fils, je ne le souhaite plus, » répondit ma mère. « J'y ai eu tant de chagrin que j'y renonce pour jamais. »« Qu'entends-je ? » m'écriai-je avec douleur. « Ah, dites plutôt que c'est l'amour qui vous en détache. Quel changement au ciel ! Quand vous arrivâtes dans cette ville, tout ce qui se présentait à vos regards vous était odieux. Mais Ali Peguelin vous a mise dans une autre disposition. » « Je ne m'en défends pas, » repartit Lucinde. « J'aime ce renégat et j'en veux faire mon 4e époux. »
« Quel projet ! »
interrompis-je avec horreur. « Vous, épousez un musulman ? Vous oubliez que vous êtes chrétienne, ou plutôt vous ne l'avez été jusqu'ici que de nom. Ah, ma mère, que me faites-vous envisager ? Vous avez résolu votre perte. Vous allez faire volontairement ce que je n'ai fait que par nécessité. » Je lui tins bien d'autres discours encore pour la détourner de son dessein, mais je la haranguai fort inutilement. Elle avait pris son parti. Elle ne se contenta pas même de suivre son mauvais penchant et de me quitter pour aller vivre avec ce renégat. Elle voulut emmener avec elle Béatrix. Je m'y opposai. « Ah, malheureuse Lucinde, lui dis-je, si rien n'est capable de vous retenir, abandonnez-vous du moins toute seule à la fureur qui vous possède. N'entraînez point une jeune innocente dans le précipice où vous courez vous jeter. » Lucinde s'en alla sans répliquer. Je crus qu'un reste de raison l'éclairait et l'empêchait de s'obstiner à demander sa fille. Que je connaissais mal ma mère. Un de mes esclaves me dit 2 jours après, « Seigneur, prenez garde à vous. Un captif de Peguelin vient de me faire une confidence dont vous ne sauriez trop tôt profiter. Votre mère a changé de religion, et pour vous punir de lui avoir refusé Béatrix, elle a formé la résolution d'avertir le pacha de votre fuite. » Je ne doutais pas un moment que Lucinde ne fût femme à faire ce que mon esclave me disait. J'avais eu le temps d'étudier la dame, et je m'étais aperçu qu'à force de jouer des rôles sanguinaires dans les tragédies, elle s'était familiarisée avec le crime. Elle m'aurait fort bien fait brûler tout vif, et je ne crois pas qu'elle eût été plus sensible à ma mort qu'à la catastrophe d'une pièce de théâtre. Je ne voulus donc pas négliger la vie que me donnait mon esclave. Je pressai mon embarquement. Je pris des Turcs, selon la coutume des corsaires d'Alger qui vont en course. Mais je n'en pris seulement que ce qu'il m'en fallait pour ne pas me rendre suspect. Et je sortis du port le plus tôt qu'il me fut possible, avec tous mes esclaves et ma sœur Béatrix. Vous jugez bien que je n'oubliais pas d'emporter en même temps ce que j'avais d'argent et de pierreries, ce qui pouvait monter à la valeur de 6000 ducats. Lorsque nous fûmes en pleine mer, nous commençâmes par nous assurer des Turcs. Nous les enchaînâmes facilement parce que mes esclaves étaient en plus grand nombre. Nous eûmes un vent si favorable que nous gagnâmes en peu de temps les côtes d'Italie. Nous arrivâmes le plus heureusement du monde au port de Livourne, où je crois que toute la ville a couru pour nous voir débarquer. Le père de mon esclave Azarine se trouva par hasard ou par curiosité parmi les spectateurs. Il considérait attentivement tous mes captifs à mesure qu'ils mettaient pied à terre. Mais quoiqu'il cherchât en eux les traits de son fils, il ne s'attendait pas à le revoir. Que de transports, que d'embrassements suivirent leur reconnaissance quand ils vinrent tous deux à se reconnaître. Sitôt qu'Azarini eut appris à son père qui j'étais et ce qui m'amenait à Livourne, le vieillard m'obligea, de même que Béatrix, à prendre un logement chez lui. Je passerai sous silence le détail de 1000 choses qu'il me fallut faire pour rentrer dans le sein de l'Église. Je dirai seulement que j'abjurais le mahométisme de meilleure foi que je ne l'avais embrassé. Après m'être entièrement purgé de ma gale d'Alger, je vendis mon vaisseau et donnai la liberté à tous mes esclaves. Pour les Turcs, on les retint dans les prisons de Livourne pour les échanger contre des chrétiens. Je reçus de l'un et de l'autre à Zarini toutes sortes de bons traitements. Le fils épousa même ma sœur Béatrix, qui n'était pas à la vérité un mauvais parti pour lui, puisqu'elle était fille d'un gentilhomme, et qu'elle avait le château de Xérica, que ma mère avait pris soin de donner à bail à un riche laboureur de Paterna lorsqu'elle voulut passer en Sicile. De Livourne, après y avoir demeuré quelque temps, je partis pour Florence, que j'avais envie de voir. Je n'y allais pas sans lettre de recommandation. Azarini, le père, avait des amis à la cour du grand-duc, et il me recommandait à eux comme un gentilhomme espagnol qui était son allié. J'ajoutai le « don » à mon nom, imitant en cela bien des Espagnols roturiers qui prennent sans façon ce titre d'honneur hors de leur pays. Je me faisais donc effrontément appeler « Don Raphaël ». Et comme j'avais apporté d'Alger de quoi soutenir dignement ma noblesse, je parus à la cour avec éclat. Les cavaliers à qui le vieil Azarini avait écrit en ma faveur y publièrent que j'étais une personne de qualité, si bien que leurs témoignages et les airs que je me donnais me firent passer sans peine pour un homme d'importance. Je me faufilai bientôt avec les principaux seigneurs qui me présentèrent au grand-duc. J'eus le bonheur de lui plaire. Je m'attachai à faire ma cour à ce prince et à l'étudier. J'écoutais attentivement ce que les plus vieux courtisans lui disaient, et par leurs discours, je démêlais ses inclinations. Je remarquais, entre autres choses, qu'il aimait les plaisanteries, les bons contes et les bons mots. Je me réglai là-dessus. J'écrivais tous les matins, sur mes tablettes, les histoires que je voulais lui conter dans la journée. J'en savais une grande quantité. J'en avais, pour ainsi dire, un sac tout plein. J'eus beau toutefois les ménager, mon sac se vida peu à peu, de sorte que j'aurais été obligé de me répéter ou de faire voir que j'étais au bout de mes apophtegmes, si mon génie fertile en fiction ne m'en eût pas abondamment fourni. Mais je composais des contes galants et comiques qui divertirent fort le grand-duc, et ce qui arrive souvent aux beaux esprits de profession, je mettais le matin sur mon agenda des bons mots que je donnais l'après-midi pour des impromptus. Je m'érigeais même en poète, et je consacrais ma muse aux louanges du prince. Je demeure d'accord de bonne foi que mes vers n'étaient pas bons, aussi ne furent-ils pas critiqués. Mais quand ils auraient été meilleurs, je doute qu'ils eussent été mieux reçus du grand-duc. Il en paraissait très content. La matière, peut-être, l'empêchait de les trouver mauvais. Quoi qu'il en soit, ce prince prit insensiblement tant de goût pour moi que cela donna de l'ombrage aux courtisans. Ils voulurent découvrir qui j'étais. Ils n'y réussirent point. Ils apprirent seulement que j'avais été renégat. Ils ne manquèrent pas de le dire au prince, dans l'espérance de me nuire. Ils n'en vinrent pourtant pas à bout. Au contraire, le grand-duc un jour m'obligea de lui faire une relation fidèle de mon voyage d'Alger. Je lui obéis, et mes aventures, que je ne lui déguisais point, le réjouirent infiniment. « Don Raphaël, me dit-il après que j'en eus achevé le récit, j'ai de l'amitié pour vous, et je veux vous en donner une marque qui ne vous permettra pas d'en douter. Je vous fais dépositaire de mes secrets. Et pour commencer à vous mettre dans ma confidence, je vous dirai que j'aime la femme d'un de mes ministres. C'est la dame de ma cour la plus aimable, mais en même temps la plus vertueuse. Renfermée dans son domestique, uniquement attachée à un époux qui l'idolâtre, elle semble ignorer le bruit que ses charmes font dans Florence. Jugez si cette conquête est difficile. Cependant, cette beauté, tout inaccessible qu'elle est aux amants, a quelquefois entendu mes soupirs. J'ai trouvé moyen de lui parler sans témoin. Elle connaît mes sentiments. Je ne me flatte point de lui avoir inspiré de l'amour, elle ne m'a point donné sujet de former une si agréable pensée. Je ne désespère pas toutefois de lui plaire, par ma constance et par la conduite mystérieuse que je prends soin de tenir. La passion que j'ai pour cette dame, continua-t-il, n'est connue que d'elle seule. Au lieu de suivre mon penchant sans contrainte et d'agir en souverain, je dérobe à tout le monde la connaissance de mon amour. Je crois devoir ce ménagement à Mascarine. C'est l'époux de la personne que j'aime. Le zèle et l'attachement qu'il a pour moi, ses services et sa probité, m'obligent à me conduire avec beaucoup de secret et de circonspection. Je ne veux pas enfoncer un poignard dans le sein de ce mari malheureux en me déclarant amant de sa femme. Je voudrais qu'il ignorât toujours, s'il est possible, l'ardeur dont je me sens brûlée, car je suis persuadée qu'il mourrait de douleur s'il savait la confidence que je vous fais en ce moment. Je cache donc mes démarches, et j'ai résolu de me servir de vous pour exprimer à Lucrèce tous les maux que me fait souffrir la contrainte que je m'impose. Vous serez l'interprète de mes sentiments. Je ne doute point que vous ne vous acquittiez à merveille de cette commission. Liez commerce avec Mascarine. Attachez-vous à gagner son amitié. Introduisez-vous chez lui et vous ménagez la liberté de parler à sa femme. Voilà ce que j'attends de vous et ce que je suis assurée que vous ferez avec toute l'adresse et la discrétion que demande un emploi si délicat. Je promis au grand-duc de faire tout mon possible pour répondre à sa confiance et contribuer au bonheur de ses feux. Je lui tins bientôt parole. Je n'épargnai rien pour plaire à Mascarine et j'en vins à bout sans peine. Charmé de voir son amitié recherchée par un homme aimé du prince, il fit la moitié du chemin. Sa maison me fut ouverte, j'eus un libre accès auprès de son épouse, et j'ose dire que je me composais si bien qu'il n'eut pas le moindre soupçon de la négociation dont j'étais chargée. Il est vrai qu'il était peu jaloux pour un Italien. Il se reposait sur la vertu de Lucrèce, et s'enfermant dans son cabinet, il me laissait souvent seul avec elle. Je fis d'abord les choses rondement. J'entretins la dame de l'amour du grand-duc et lui dis que je ne venais chez elle que pour lui parler de ce prince. Elle ne me parut pas éprise de lui. Je m'aperçus néanmoins que la vanité l'empêchait de rejeter ses soupirs. Elle prenait plaisir à les entendre, sans vouloir y répondre. Elle avait de la sagesse, mais elle était femme. Et je remarquai que sa vertu cédait insensiblement à l'image superbe de voir un souverain dans ses fers. Enfin, le prince pouvait justement se flatter que, sans employer la violence de Tarquin, il verrait Lucrèce rendue à son amour. Un incident, toutefois, auquel il se serait le moins attendu, détruisit ses espérances, comme vous l'allez apprendre. Je suis naturellement hardie avec les femmes. J'ai contracté cette habitude, bonne ou mauvaise, chez les Turcs. Lucrèce était belle, j'oubliais que je ne devais faire que le personnage d'ambassadeur. Je parlais pour mon compte. J'offris mes services à la dame, le plus galamment qu'il me fut possible. Au lieu de paraître choquée de mon audace et de me répondre avec colère, elle me dit en souriant « Avouez, don Raphaël, que le grand-duc a fait choix d'un agent fort fidèle et fort zélé. Vous le servez avec une intégrité qu'on ne peut assez louer. » « Madame, dis-je sur le même ton, n'examinons point les choses scrupuleusement. Laissons, je vous prie, les réflexions. Je sais bien qu'elles ne me sont pas favorables, mais je m'abandonne aux sentiments. Je ne crois pas, après tout, être le premier confident de prince qui ait trahi son maître en matière de galanterie. Les grands seigneurs ont souvent dans leur mercure des rivaux dangereux. « Cela se peut, » reprit Lucrèce. « Pour moi, je suis fière, et tout autre qu'un prince ne saurait me toucher. Réglez-vous là-dessus, » poursuivit-elle en prenant son sérieux. « Échangeons d'entretien. Je veux bien oublier ce que vous venez de me dire, à condition qu'il ne vous arrivera plus de me tenir de pareils propos. Autrement, vous pourriez vous en repentir. » Quoique cela fût un avis au lecteur et que je dusse en profiter, je ne cessais point d'entretenir de ma passion la femme de Mascarine. Je la pressais même avec plus d'ardeur qu'auparavant de répondre à ma tendresse, et je fus assez téméraire pour vouloir prendre des libertés. La dame, alors, s'offensant de mes discours et de mes manières musulmanes, me rompit en visière. Elle me menaça de faire savoir au grand-duc mon insolence, en m'assurant qu'elle le prierait de me punir comme je le méritais. Je fus piqué de ces menaces à mon tour. Mon amour se changea en haine. Je résolus de me venger du mépris que Lucrèce m'avait témoigné. J'allai trouver son mari, et après l'avoir obligé de me jurer qu'il ne me commettrait point, je l'informai de l'intelligence que sa femme avait avec le prince, dont je ne manquais pas de la peindre fort amoureuse pour rendre la scène plus intéressante. Le ministre, pour prévenir tout accident, renferma sans autre forme de procès son épouse dans un appartement secret où il la fit étroitement garder par des personnes affidées. Tant qu'elle était environnée d'Argus qui l'observait et l'empêchait de donner de ses nouvelles au grand-duc, j'annonçai d'un air triste à ce prince qu'il ne devait plus penser à Lucrèce. Je lui dis que Mascarini avait sans doute découvert tout puisqu'il s'avisait de veiller sur sa femme, que je ne savais pas ce qui pouvait lui avoir donné lieu de me soupçonner, attendu que je croyais m'être toujours conduit avec beaucoup d'adresse, que la dame, peut-être, avait elle-même avoué tout à son époux, et que, de concert avec lui, elle s'était laissée renfermer pour se dérober à des poursuites qui alarmaient sa vertu. Le prince parut fort affligé de mon rapport. Je fus touché de sa douleur, et je me repentis plus d'une fois de ce que j'avais fait. Mais il n'était plus temps. D'ailleurs, je le confesse, je sentais une maligne joie quand je me représentais la situation où j'avais réduit l'orgueilleuse qui avait dédaigné mes vœux. Je goûtais impunément le plaisir de la vengeance, qui est si doux à tout le monde, et principalement aux Espagnols, lorsqu'un jour, le grand-duc, étant avec 5 ou 6 seigneurs de sa cour, et moi, nous dit « De quelle manière jugeriez-vous à propos qu'on punît un homme qui aurait abusé de la confidence de son prince et voulu lui ravir sa maîtresse ?»« Il faudrait, dit un de ses courtisans, le faire tirer à 4 chevaux. » Un autre fut d'avis qu'on l'assommât et le fit mourir sous le bâton. Le moins cruel de ces Italiens, et celui qui opina le plus favorablement pour le coupable, dit qu'il se contenterait de le faire précipiter du haut d'une tour en bas. « Et Don Raphaël, reprit alors le grand-duc, de quelle opinion est-il ? Je suis persuadé que les Espagnols ne sont pas moins sévères que les Italiens dans de semblables conjonctures. » Je compris bien, comme vous pouvez penser, que Mascarini n'avait pas gardé son serment, ou que sa femme avait trouvé moyen d'instruire le prince de ce qui s'était passé entre elle et moi. On remarquait sur mon visage le trouble qui m'agitait. Cependant, tout troublé que j'étais, je répondis d'un ton ferme au grand-duc. « Seigneur, les Espagnols sont plus généreux. Ils pardonneraient en cette occasion au confident et feraient naître, par cette bonté, dans son âme un regret éternel de les avoir trahis. « Eh bien, me dit le prince, je me sens capable de cette générosité. Je pardonne aux traîtres. Aussi bien je ne dois m'en prendre qu'à moi-même d'avoir donné ma confiance à un homme que je ne connaissais point et dont j'avais sujet de me défier, après tout ce qu'on m'en avait dit. Don Raphaël, ajouta-t-il, voici de quelle manière je veux me venger de vous. Sortez incessamment de mes états et ne paraissez plus devant moi. » Je me retirai sur le champ, moins affligé de ma disgrâce que ravi d'en être quitte à si bon marché. Je m'embarquai dès le lendemain dans un vaisseau de Barcelone qui sortait du port de Livourne pour s'en retourner. J'interrompis Don Raphaël dans cet endroit de son histoire. « Pour un homme d'esprit, lui dis-je, vous fîtes, ce me semble, une grande faute de ne pas quitter Florence immédiatement après avoir découvert à Mascarini l'amour du prince pour Lucrèce. Vous deviez bien vous imaginer que le grand-duc ne tarderait pas à savoir votre trahison. « J'en demeure d'accord, » répondit le fils de Lucinde. « Aussi, malgré l'assurance que le ministre me donna de ne me point exposer au ressentiment du prince, je me proposai de disparaître au plus tôt. J'arrivai à Barcelone, continua-t-il, avec le reste des richesses que j'avais apportées d'Alger et dont j'avais dissipé la meilleure partie à Florence en faisant le gentilhomme espagnol. Je ne demeurai pas longtemps en Catalogne. Je mourrai d'envie de revoir Madrid, le lieu charmant de ma naissance, et je satisfis le plus tôt qu'il me fut possible le désir qui me pressait. En arrivant dans cette ville, j'allai loger par hasard dans un hôtel garni où demeurait une dame qu'on appelait Camille. Quoiqu'elle fût hors de minorité, c'était une créature fort piquante. J'en atteste le seigneur Gil Blas, qui l'a vue à Valladolid, presque dans le même temps. Elle avait encore plus d'esprit que de beauté, et jamais aventurière n'a eu plus de talent pour amorcer les dupes. Mais elle ne ressemblait point à ces coquettes qui mettent à profit la reconnaissance de leurs amants. Venait-elle de dépouiller un homme d'affaires, elle en partageait les dépouilles avec le premier cavalier de tripot qu'elle trouvait à son gré. Nous nous aimâmes l'un l'autre dès que nous nous vîmes, et la conformité de nos inclinations nous lia si étroitement que nous fûmes bientôt en communauté de biens. Nous n'en avions pas, à la vérité, de considérable, et nous les mangeâmes en peu de temps. Nous ne songions par malheur tous deux qu'à nous plaire, sans faire le moindre usage des dispositions que nous avions à vivre aux dépens d'autrui. La misère enfin réveilla nos génies, que le plaisir avait engourdis. « Mon cher Raphaël, me dit Camille, faisons diversion, mon ami, cessons de garder une fidélité qui nous ruine. Vous pouvez entêter une riche veuve, je puis charmer quelques vieux seigneurs. Si nous continuons à nous être fidèles, voilà deux fortunes manquées. » « Belle Camille, lui répondis-je, vous me prévenez, j'allais vous faire la même proposition. » « J'y consens, ma reine. Oui, pour mieux entretenir notre mutuelle ardeur, tentons d'utiles conquêtes. Les infidélités que nous nous ferons deviendront des triomphes pour nous. » Cette convention faite, nous nous mîmes en campagne. Nous nous donnâmes d'abord de grands mouvements, sans pouvoir rencontrer ce que nous cherchions. Camille ne trouvait que des petits maîtres, ce qui suppose des amants qui n'avaient pas le sou. Et moi, que des femmes qui aimaient mieux lever des contributions que d'en payer. Comme l'amour se refusait à nos besoins, nous eûmes recours aux fourberies. Nous en fîmes tant et tant que le corégidor en entendit parler. Et ce juge, sévère en diable, chargea un de ses alguazils de nous arrêter. Mais l'alguazil, aussi bon que le corégidor était mauvais, nous laissa le loisir de sortir de Madrid pour une petite somme que nous lui donnâmes. Nous prîmes la route de Valladolid et nous allâmes nous établir dans cette ville. J'y louai une maison où je logeais avec Camille, que je fis passer pour ma sœur, de peur de scandale. Nous tîmes d'abord notre industrie en bride et nous commençâmes d'étudier le terrain avant que de former aucune entreprise. Un jour, un homme m'aborda dans la rue, me salua très civilement et me dit « Seigneur Don Raphaël, me reconnaissez-vous ? » Je lui répondis que non. « Et moi, reprit-il, je vous remets parfaitement. Je vous ai vu à la cour de Toscane et j'étais alors garde du grand-duc. Il y a quelques mois, ajouta-t-il, que j'ai quitté le service de ce prince. Je suis venu en Espagne avec un Italien des plus subtils. » Nous sommes à Valladolid depuis 3 semaines. Nous demeurons avec un Castillan et un Galicien, qui sont sans contredit 2 honnêtes garçons. Nous vivons ensemble du travail de nos mains. Nous faisons bonne chère et nous nous divertissons comme des princes. Si vous voulez vous joindre à nous, vous serez agréablement reçus de mes confrères, car vous m'avez toujours paru un galant homme. Peu scrupuleux de votre naturel et professe dans notre ordre. La franchise de ce fripon excita la mienne. « Puisque vous me parlez à cœur ouvert, lui dis-je, vous méritez que je m'explique de même avec vous. Véritablement, je ne suis pas novice dans votre profession, et si ma modestie me permettait de compter mes exploits, vous verriez que vous n'avez pas jugé trop avantageusement de moi. Mais je laisse là les louanges, et je me contenterai de vous dire, en acceptant la place que vous m'offrez dans votre compagnie, que je ne négligerai rien pour vous prouver que je n'en suis pas indigne. » Je n'eus pas sitôt dit à cet ambidextre que je consentais d'augmenter le nombre de ses camarades qu'il me conduisit où ils étaient, et là je fis connaissance avec eux. C'est dans cet endroit que je vis pour la première fois l'illustre Ambroise de Lamela. Ces messieurs m'interrogèrent sur l'art de s'approprier finement le bien du prochain. Ils voulurent savoir si j'avais des principes, mais je leur montrai bien des tours qu'ils ignoraient et qu'ils admirèrent. Ils furent encore plus étonnés lorsque, méprisant la subtilité de ma main, comme une chose trop ordinaire, je leur dis que j'excellais dans les fourberies qui demandent de l'esprit. Pour le leur persuader, je leur racontai l'aventure de Jérôme de Moyadas, et, sur le simple récit que j'en fis, ils me trouvèrent un génie si supérieur qu'ils me choisirent d'une commune voix pour leur chef. Je justifiai bien leur choix par une infinité de friponneries que nous fîmes, et dont je fus, pour ainsi parler, la cheville ouvrière. Quand nous avions besoin d'une actrice pour nous seconder, nous nous servions de Camille, qui jouait à ravir tous les rôles qu'on lui donnait. Dans ce temps-là, notre confrère Ambroise fut tenté de revoir sa patrie. Il partit pour la Galice, en nous assurant que nous pouvions compter sur son retour. Il contenta son envie, et comme il s'en revenait, étant allé à Burgos pour y faire quelques coups, un hôtelier de sa connaissance le mit au service du seigneur Gil Blas de Santillane, dont il n'oublia pas de lui apprendre les affaires. « Seigneur Gil Blas, poursuivit Don Raphaël en m'adressant la parole, vous savez de quelle manière nous vous dévalisâmes dans un hôtel garni de Valladolid. Je ne doute pas que vous n'ayez soupçonné Ambroise d'avoir été principal instrument de ce vol, et vous avez eu raison. Il vint nous trouver en arrivant, il nous exposa l'état où vous étiez, et messieurs les entrepreneurs se réglèrent là-dessus. Mais vous ignorez les suites de cette aventure, je vais vous en instruire. Nous enlevâmes, Ambroise et moi, votre valise, et tous deux, montés sur vos mules, nous prîmes le chemin de Madrid, sans nous embarrasser de Camille ni de nos camarades, qui furent sans doute aussi surpris que vous de ne nous pas revoir le lendemain. Nous changeâmes de dessein la seconde journée. Au lieu d'aller à Madrid, d'où je n'étais pas sorti sans raison, nous passâmes par Zebreros et continuâmes notre route jusqu'à Tolède. Notre premier soin dans cette ville fut de nous habiller fort proprement. Puis, nous donnant pour deux frères galiciens qui voyageaient par curiosité, nous connûmes bientôt de fort honnêtes gens. J'étais si accoutumé à faire l'homme de qualité qu'on s'y méprit aisément. Et comme on éblouit d'ordinaire par la dépense, nous jetâmes de la poudre aux yeux de tout le monde par les fêtes galantes que nous commençâmes à donner aux dames. Parmi les femmes que je voyais, il y en eut une qui me toucha. Je la trouvai plus belle que Camille et beaucoup plus jeune. Je voulus savoir qui elle était. J'appris qu'elle se nommait Violante et qu'elle avait épousé un cavalier qui, déjà las de ses caresses, courait après celle d'une courtisane qu'il aimait. Je n'eus pas besoin qu'on m'en dît davantage pour me déterminer à établir Violante dame souveraine de mes pensées. Elle ne tarda guère à s'apercevoir de sa conquête. Je commençai à suivre partout ses pas et à faire sans folie pour lui persuader que je ne demandais pas mieux que de la consoler des infidélités de son époux. La belle fit là-dessus ses réflexions, qui furent telles que j'eus enfin le plaisir de connaître que mes intentions étaient approuvées. Je reçus d'elle un billet en réponse de plusieurs que je lui avais fait tenir par une de ses vieilles, qui sont d'une si grande commodité en Espagne et en Italie. La dame me mandait que son mari soupait tous les soirs chez sa maîtresse et ne revenait au logis que fort tard. Je compris bien ce que cela signifiait. Dès la même nuit, j'allai sous les fenêtres de Violante et je liai avec elle une conversation des plus tendres. Avant que de nous séparer, nous convînmes que toutes les nuits, à pareille heure, nous pourrions nous entretenir de la même manière, sans préjudice de tous les autres actes de galanterie qu'il nous serait permis d'exercer le jour. Jusque-là, Don Balthazar, ainsi se nommait l'époux de Violante, en avait été quitte à bon marché, mais je voulais aimer physiquement, et je me rendis un soir sous les fenêtres de la dame, dans le dessein de lui dire que je ne pouvais plus vivre si je n'avais un tête-à-tête avec elle dans un lieu plus convenable à l'excès de mon amour. ce que je n'avais pu encore obtenir d'elle. Mais comme j'arrivais, je vis venir dans la rue un homme qui semblait m'observer. En effet, c'était le mari, qui revenait de chez sa courtisane de meilleure heure qu'à l'ordinaire, et qui, remarquant un cavalier près de sa maison, au lieu d'y entrer, se promenait dans la rue. J'y demeurai quelque temps incertain de ce que je devais faire. Enfin, je pris le parti d'aborder Don Balthazar, que je ne connaissais point et dont je n'étais pas connu. « Seigneur cavalier, lui dis-je, laissez-moi, je vous prie, la rue libre pour cette nuit. J'aurai une autre fois la même complaisance pour vous. »«
Seigneur, me répondit-il, j'allais vous faire la même prière. Je suis amoureux d'une fille que son frère fait soigneusement garder et qui demeure à 20 pas d'ici. Je souhaiterais qu'il n'y eût personne dans la rue. »
« Il y a, repris-je, moyen de nous satisfaire tous deux sans nous incommoder.
Car, ajoutai-je en lui montrant sa propre maison, la dame que je sers loge là. Il faut même que nous nous secourions si l'un ou l'autre vient à être attaqué.
J'y consens, repartit-il. Je vais à mon rendez-vous et nous nous épaulerons s'il en est besoin.
À ces mots, il me quitta, mais c'était pour mieux m'observer, ce que l'obscurité de la nuit lui permettait de faire impunément. Pour moi, je m'approchai de bonne foi du balcon de Violante. Elle parut bientôt et nous commençâmes à nous entretenir. Je ne manquai pas de presser ma reine de m'accorder un entretien secret dans quelque endroit particulier. Elle résista un peu à mes instances pour augmenter le prix de la grâce que je demandais. Puis, me jetant un billet qu'elle tira de sa poche, « Tenez, me dit-elle, vous trouverez dans cette lettre la promesse d'une chose dont vous m'importunez tant. » Ensuite, elle se retira, parce que l'heure à laquelle son mari revenait ordinairement approchait. Je serrai le billet et je m'avançai vers le lieu où Don Balthazar m'avait dit qu'il avait affaire. Mais cet époux, qui s'était fort bien aperçu que j'en voulais à sa femme, vint au-devant de moi et me dit « Eh bien, seigneur cavalier, êtes-vous content de votre bonne fortune ?»«
J'ai jugé de l'être, lui répondis-je.
« Et vous, qu'avez-vous fait? L'amour vous a-t-il favorisé ?»«
Hélas, non, repartit-il. Le maudit frère de la beauté que j'aime est de retour d'une maison de campagne, d'où nous avions cru qu'il ne reviendrait que demain. Ce contretemps m'a sevré du plaisir dont je m'étais flatté. »
Nous nous fîmes, Don Balthazar et moi, des protestations d'amitié, et nous nous donnâmes rendez-vous le lendemain matin dans la grande place. Ce cavalier, après que nous nous fûmes séparés, entra chez lui et ne fit nullement connaître à Violante qu'il sut de ses nouvelles. Il se trouva le jour suivant dans la grande place. J'y arrivai un moment après lui. Nous nous saluâmes avec des démonstrations d'amitié aussi perfides d'un côté que sincères de l'autre. Ensuite, l'artificieux Don Balthazar me fit une fausse confidence de son intrigue avec la dame dont il m'avait parlé la nuit précédente. Il me raconta là-dessus une longue fable qu'il avait composée, et tout cela pour m'engager à lui dire à mon tour de quelle façon j'avais fait connaissance avec Violante. Je ne manquais pas de donner dans le piège. J'avouais tout avec la plus grande franchise du monde. Je montrai même le billet que j'avais reçu d'elle, et je lus ces paroles qu'il contenait. « J'irai demain dîner chez Donna Inès. Vous savez où elle demeure. C'est dans la maison de cette fidèle amie que je prétends avoir un tête-à-tête avec vous. Je ne puis vous refuser plus longtemps cette faveur que vous me paraissez mériter. »
« Voilà, dit Don Balthazar, un billet qui vous promet le prix de vos feux. Je vous félicite par avance du bonheur qui vous attend. »
Il ne laissait pas, en parlant de la sorte, d'être un peu déconcerté. Mais il déroba facilement à mes yeux son trouble et son embarras. J'étais si plein de mes espérances que je ne me mettais guère en peine d'observer mon confident, qui fut obligé toutefois de me quitter, de peur que je ne m'aperçusse enfin de son agitation. Il courut avertir son beau-frère de cette aventure. J'ignore ce qui se passa entre eux. Je sais seulement que Don Balthazar vint frapper à la porte de Donna Inès dans le temps que j'étais chez cette dame avec Violante. Nous sûmes que c'était lui, et je me sauvai par une porte de derrière avant qu'il fût entré. D'abord que j'eus disparu, les femmes, que l'arrivée imprévue de ce mari avait un peu troublée, se rassurèrent et le reçurent avec tant d'effronterie qu'il se douta bien qu'on m'avait caché ou fait évader. Je ne vous dirai point ce qu'il dit à Donna Inès et à sa femme. C'est une chose qui n'est pas venue à ma connaissance. Cependant, sans soupçonner encore que je fusse la dupe de Don Balthazar, je sortis en le maudissant, et je retournai à la grande place où j'avais donné rendez-vous à la Mela. Je ne l'y trouvai point. Il avait aussi ses petites affaires, et le fripon était plus heureux que moi. Comme je l'attendais, je vis arriver mon perfide confident, qui avait un air gai. Il me joignit et me demanda, en riant, des nouvelles de mon tête-à-tête avec ma nymphe chez Donna Inès. « Je ne sais, lui dis-je, quel démon jaloux de mes plaisirs se plaît à les traverser. Mais tandis que seul avec la dame je la pressais de faire mon bonheur, son mari, que le ciel confonde, est venu frapper à la porte de la maison. Il a fallu promptement songer à me retirer. Je suis sorti par une porte de derrière, en donnant à tous les diables fâcheux qui rompaient toutes mes mesures. « J'en ai un véritable chagrin !» s'écria Don Balthazar, qui sentait une secrète joie de voir ma peine. « Voilà un impertinent mari. Je vous conseille de ne lui point faire de quartier. »« Oh, je suivrai vos conseils, lui répliquai-je, et je puis vous assurer que son honneur passera le pas cette nuit. Sa femme, quand je l'ai quittée, m'a dit de ne me pas rebuter pour si peu de choses, que je ne manque pas de me rendre sous ses fenêtres de meilleure heure qu'à l'ordinaire, qu'elle est résolue à me faire entrer chez elle, mais qu'à tout hasard j'ai la précaution de me faire escorter par deux ou trois amis de crainte de surprise. « Que cette dame est prudente !» dit-il. « Je m'offre à vous accompagner. » « Ah, mon cher ami !» m'écriai-je, tout transporté de joie, en jetant mes bras au cou de Don Balthazar. « Que je vous ai d'obligation !»« Je ferai plus !» reprit-il. « Je connais un jeune homme qui est un César. Il sera de la partie. Et vous pourrez alors vous reposer hardiment sur une pareille escorte. » Je ne savais que dire à ce nouvel ami pour le remercier, tant j'étais charmé de son zèle. Enfin, j'acceptai les secours qu'il m'offrait. Et nous donnant rendez-vous sous le balcon de Violante, à l'entrée de la nuit, nous nous séparâmes. Il alla trouver son beau-frère, qui était le César en question, et moi je me promenai jusqu'au soir avec la Mela, qui, bien qu'étonnée de l'ardeur avec laquelle Don Balthazar entrait dans mes intérêts, ne s'en défia pas plus que moi. Nous donnions tête baissée dans le panneau. Je conviens que cela n'était guère pardonnable à des gens comme nous. Quand je jugeai qu'il était temps de me présenter devant les fenêtres de Violante, Ambroise et moi nous y parûmes armés de bonnes rapières. Nous y trouvâmes le mari de madame avec un autre homme, et nous attendait de pied ferme. Don Balthazar m'aborda, et me montrant son beau-frère, il me dit « Seigneur, voici le cavalier dont je vous ai tantôt vanté la bravoure. Introduisez-vous chez votre maîtresse, et qu'aucune inquiétude ne vous empêche de jouir d'une parfaite félicité. » Après quelques compliments de part et d'autre, je frappai à la porte de Violante. Une espèce de duègne vint ouvrir, j'entrai, et sans prendre garde à ce qui se passait derrière moi, je m'avançai dans une salle où était cette dame. Pendant que je la saluais, les deux traîtres qui m'avaient suivi dans la maison et qui en avaient fermé la porte si brusquement après eux qu'Ambroise était resté dans la rue, se découvrirent. Vous vous imaginez bien qu'il en fallut alors découdre. Ils me chargèrent tous deux en même temps. Mais je leur fis voir du pays. Je les occupai l'un et l'autre de manière qu'ils se repentirent peut-être de n'avoir pas pris une voie plus sûre pour se venger. Je perçai l'époux. Son beau-frère, le voyant hors du combat, gagna la porte que la duègne et Violante avaient ouverte pour se sauver tandis que nous nous battions. Je le poursuivis jusque dans la rue, où je rejoignis la Mela, qui, n'ayant pu tirer un seul mot des femmes qu'il avait vues fuir, ne savait précisément ce qu'il devait juger du bruit qu'il venait d'entendre. Nous retournâmes à notre auberge, nous prîmes ce que nous avions de meilleur, et montant sur nos mules, nous sortîmes de la ville sans attendre le jour. Nous comprîmes bien que cette affaire pourrait avoir des suites et qu'on ferait dans Tolède des perquisitions que nous n'avions pas tort de prévenir. Nous allâmes coucher à Villa Rubia, nous logeâmes dans une hôtellerie où, quelque temps après nous, il arriva un marchand de Tolède qui allait à Ségorbe. Nous soupâmes avec lui, il nous conta l'aventure tragique du mari de Violante, et il était si éloigné de nous soupçonner d'y avoir part que nous lui fîmes hardiment toutes sortes de questions. « Messieurs, nous dit-il, comme je partais ce matin, j'ai appris ce triste événement. On cherchait partout Violante, et l'on m'a dit que le corégidor, qui est parent de Don Balthazar, a résolu de ne rien épargner pour découvrir les auteurs de ce meurtre. Voilà tout ce que je sais. » Je ne fus guère alarmé des recherches du corégidor de Tolède. Cependant, je formai la résolution de sortir promptement de la Castille nouvelle. Je fis réflexion que Violante retrouvée avouerait tout, et que sur le portrait qu'elle ferait de ma personne à la justice, on mettrait des gens à mes trousses. Cela fut cause que, dès le jour suivant, nous évitâmes le grand chemin par précaution. Heureusement, Lamela connaissait les trois quarts de l'Espagne et savait par quel détour nous pouvions sûrement nous rendre en Aragon. Au lieu d'aller tout droit à Cuenca, nous nous engageâmes dans les montagnes qui sont devant cette ville, et, par des sentiers qui n'étaient pas inconnus à mon guide, nous arrivâmes devant une grotte qui me parut avoir tout l'air d'un ermitage. Effectivement, c'était celui où vous êtes venu hier au soir me demander un asile. Pendant que j'en considérais les environs, qui offraient à ma vue un paysage des plus charmants, mon compagnon me dit « Il y a 6 ans que je passais par ici. Dans ce temps-là, cette grotte servait de retraite à un vieil ermite qui me reçut charitablement. Il me fit part de ses provisions. Je me souviens que c'était un saint homme et qu'il me tint des discours qui pensèrent me détacher du monde. Il vit peut-être encore. Je vais m'en éclaircir. » En achevant ces mots, le curieux Ambroise descendit de dessus sa mule et entra dans l'ermitage. Il y demeura quelques moments, puis il revint et m'appelant, « Venez, me dit-il, Don Raphaël, venez voir une chose très touchante. » Je mis aussitôt pied à terre, nous attachâmes nos mules à des arbres et je suivis Lamela dans la grotte, où j'aperçus sur un grabat un vieil anachorète tout étendu, pâle et mourant. Une barbe blanche et fort épaisse lui couvrait l'estomac, et l'on voyait dans ses mains jointes un grand rosaire entrelacé. Au bruit que nous fîmes en nous approchant de lui, il ouvrit des yeux que la mort déjà commençait à fermer, et après nous avoir envisagé un instant, « Qui que vous soyez, nous dit-il, mes frères, profitez du spectacle qui se présente à vos regards. » J'ai passé 40 années dans le monde et 60 dans cette solitude. Ah, qu'en ce moment le temps que j'ai donné à mes plaisirs me paraît long, et qu'au contraire celui que j'ai consacré à la pénitence me semble court. Hélas, je crains que les austérités du frère Jean n'aient pas assez expié les péchés du licencié Don Juan de Solis. » Il n'eut pas achevé ces mots qu'il expira. Nous fûmes frappés de cette mort. Ces sortes d'objets font toujours quelque impression sur les plus grands libertins même. Mais nous n'en fûmes pas longtemps touchés. Nous oubliâmes bientôt ce qu'il venait de nous dire et nous commençâmes à faire un inventaire de tout ce qui était dans l'ermitage, ce qui ne nous occupa pas infiniment, tous les meubles consistant dans ceux que vous avez pu remarquer dans la grotte. Le frère Juan n'était pas seulement mal meublé, il avait encore une très mauvaise cuisine. Nous ne trouvâmes chez lui, pour toute provision, que des noisettes et quelques grignons de pain d'orge fort durs que les gencives du saint homme n'avaient apparemment pu broyer. Je dis ces gencives, car nous remarquâmes que toutes les dents lui étaient tombées. Tout ce que cette demeure solitaire contenait, tout ce que nous considérions, nous faisait regarder ce bon anachorète comme un saint. Une seule chose nous choqua. Nous ouvrîmes un papier plié en forme de lettre qu'il avait mis sur une table et par lequel il priait la personne qui lirait ce billet de porter son rosaire et ses sandales à l'évêque de Cuenca. Nous ne savions pas dans quel esprit ce nouveau père du désert pouvait avoir envie de faire un pareil présent à son évêque. Cela nous semblait blesser l'humilité et nous paraissait d'un homme qui voulait trancher du bienheureux. Peut-être aussi n'y avait-il là-dedans que de la simplicité. C'est ce que je ne déciderai point. En nous entendant là-dessus, il vint une idée assez plaisante à Lamela. « Demeurons, me dit-il, dans cet ermitage. Déguisons-nous en ermite, enterrons le frère Juan, vous passerez pour lui, et moi, sous le nom de frère Antoine, j'irai quêter dans les villes et les bourgs voisins. Outre que nous serons à couvert des perquisitions du corregidor, car je ne pense pas qu'on s'avise de nous venir chercher ici, j'ai à Cuenza de bonnes connaissances que nous pourrons entretenir. » J'approuvais cette bizarre imagination, moins pour les raisons qu'Ambroise me disait que par fantaisie, et comme pour jouer un rôle dans une pièce de théâtre. Nous fîmes une fosse à 30 ou 40 pas de la grotte, et nous y enterrâmes modestement le vieil anachorète, après l'avoir dépouillé de ses habits, c'est-à-dire d'une simple robe que nouait par le milieu une ceinture de cuir. Nous lui coupâmes aussi la barbe pour m'en faire une postiche. Et enfin, après ses funérailles, nous prîmes possession de l'ermitage. Nous fîmes fort mauvaise chère le premier jour. Il nous fallut vivre des provisions du défunt. Mais le lendemain, avant le lever de l'aurore, Lamela se mit en campagne avec les deux mules qu'il alla vendre à Toralva. Et le soir, il revint chargé de vivres et d'autres choses qu'il avait achetées. Il en apporta tout ce qui était nécessaire pour nous travestir. Il se fit lui-même une robe de bure et une petite barbe rousse de crin de cheval qu'il s'attacha si artistement aux oreilles qu'on eût juré qu'elle était naturelle. Il n'y a point de garçon au monde plus adroit que lui. Il tressa aussi la barbe du frère Juan. Il me l'appliqua et mon bonnet de laine brune achevait de couvrir l'artifice. On peut dire que rien ne manquait à notre déguisement. Nous nous trouvions l'un et l'autre si plaisamment équipés que nous ne pouvions sans rire nous regarder sous ces habits, qui véritablement ne nous convenaient guère. Avec la robe du frère Juan, j'avais son rosaire et ses sandales, dont je ne me fis pas un scrupule de priver l'évêque de Cuenza. Il y avait déjà 3 jours que nous étions dans l'ermitage, sans y avoir vu paraître personne. Mais le 4e, il entra dans la grotte 2 paysans. Ils apportaient du pain, du fromage et des oignons aux défunts, qu'ils croyaient encore vivants. Je me jetai sur notre grabat dès que je les aperçus, et il ne me fut pas difficile de les tromper. Outre qu'on ne voyait point assez pour pouvoir bien distinguer mes traits, j'imitai le mieux que je pus la voix du frère Jean, dont j'avais entendu les dernières paroles. Ils n'eurent aucun soupçon de cette supercherie. Ils parurent seulement étonnés de rencontrer là un autre ermite. Mais Lamela, remarquant leur surprise, leur dit d'un air hypocrite « Mes frères, ne soyez pas surpris de me voir dans cette solitude. J'ai quitté un ermitage que j'avais en Aragon pour venir ici tenir compagnie au vénérable et discret frère Juan, qui, dans l'extrême vieillesse où il est, a besoin d'un camarade qui puisse pourvoir à ses besoins. » Les paysans donnèrent à la charité d'Ambroise des louanges infinies et témoignèrent qu'ils étaient bien aises de pouvoir se vanter d'avoir 2 saints personnages dans leur contrée. Lamela, chargé d'une grande besace qu'il n'avait pas oublié d'acheter, alla pour la première fois quêter dans la ville de Cuenza, qui n'est éloignée de l'ermitage que d'une petite lieue. Avec l'extérieur pieux qu'il a reçu de la nature, et l'art de le faire valoir, qu'il possède au suprême degré, il ne manqua pas d'exciter les personnes charitables à lui faire l'aumône. Il remplit sa besace de leur libéralité. « Monsieur Ambroise, lui dis-je à son retour, je vous félicite de l'heureux talent que vous avez pour attendrir les âmes chrétiennes. Vive Dieu ! L'on dirait que vous avez été frère quêteur chez les Capucins. » J'ai fait bien autre chose que remplir mon bissac, me répondit-il. Vous saurez que j'ai déterré certaines nymphes, appelées barbes, que j'aimais autrefois. Je les trouvais bien changées. Elle s'est mise comme nous dans la dévotion. Elle demeure avec 2 ou 3 autres béates qui édifient le monde en public et mènent une vie scandaleuse en particulier. Elle ne me reconnaissait pas d'abord. « Comment donc, lui ai-je dit, Madame Barbe, est-il possible que vous ne remettiez point un de vos anciens amis, votre serviteur Ambroise ?»«
Par ma foi, seigneur de Lamela, » s'est-elle écriée, « je ne me serais jamais attendue à vous revoir sous les habits que vous portez. Par quelle aventure êtes-vous devenu ermite ?»«
C'est ce que je ne puis vous raconter présentement, » lui ai-je réparti.
« Le détail est un peu long, mais je viendrai demain au soir satisfaire votre curiosité. De plus, je vous amènerai le frère Juan, mon compagnon. »«
Le frère Juan ? » a-t-elle interrompu. « Ce bon ermite qui a un ermitage auprès de cette ville ? Vous n'y pensez pas ? On dit qu'il a plus de 100 ans. »«
Il est vrai, lui ai-je dit, qu'il a eu cet âge-là, mais il est bien rajeuni depuis quelques jours. Il n'est pas plus vieux que moi. »
« Eh bien, qu'il vienne avec vous, » a répliqué Barbe. « Je vois bien qu'il y a du mystère là-dessous. » Nous ne manquâmes pas le lendemain, dès qu'il fut nuit, d'aller chez ses bigotes, qui, pour nous mieux recevoir, avaient préparé un grand repas. Nous ôtâmes d'abord nos barbes et nos habits d'anachorète, et sans façon, nous fîmes connaître à ces princesses qui nous étions. De leur côté, de peur de demeurer en reste de franchise avec nous, elles nous montrèrent de quoi sont capables de fausses dévotes quand elles bannissent la grimace. Nous passâmes presque toute la nuit à table, et nous ne rentrâmes à notre grotte qu'un moment avant le jour. Nous y retournâmes bientôt après, ou, pour mieux dire, nous fîmes la même chose pendant 3 mois, et nous mangeâmes avec ces créatures plus des 2/3 de nos espèces. Mais un jaloux, qui a tout découvert, en a informé la justice, qui doit aujourd'hui se transporter à l'ermitage pour se saisir de nos personnes. Hier, Ambroise, enquêtant à Cuenza, rencontra une de nos béates qui lui donna un billet et lui dit « Une femme de mes amies m'écrit cette lettre que j'allais vous envoyer par un homme exprès. Montrez-la au frère Juan et prenez vos mesures là-dessus. » C'est ce billet, messieurs, que Lamela m'a mis entre les mains devant vous et qui nous a si brusquement fait quitter notre demeure solitaire. Chapitre 2. Du conseil que Don Raphaël et ses auditeurs tinrent ensemble et de l'aventure qui leur arriva lorsqu'ils voulurent sortir du bois. Quand Don Raphaël eut achevé de conter son histoire, dont le récit me parut un peu long, Don Alphonse, par politesse, lui témoigna qu'elle l'avait fort diverti. Après cela, le seigneur Ambroise prit la parole et, l'adressant au compagnon de ses exploits, « Don Raphaël, lui dit-il, songez que le soleil se couche. Il serait à propos, ce me semble, de délibérer sur ce que nous avons à faire. »« Vous avez raison, lui répondit son camarade. Il faut déterminer l'endroit où nous voulons aller. »«
Pour moi, reprit Lamela, je suis d'avis que nous nous remettions en chemin sans perdre de temps, que nous gagnions Requena cette nuit et que demain nous entrions dans le royaume de Valence, où nous donnerons l'essor à notre industrie. Je pressens que nous y ferons de bons coups. »
Son frère, qui croyait là-dessus ses pressentiments infaillibles, se rangea de son opinion. Pour Don Alphonse et moi, comme nous nous laissions conduire par ces deux honnêtes gens, nous attendîmes, sans rien dire, le résultat de la conférence. Il fut donc résolu que nous prendrions la route de Requena et nous commençâmes à nous y disposer. Nous y fîmes un repas semblable à celui du matin, puis nous chargeâmes le cheval de l'outre et du reste de nos provisions. Ensuite, la nuit qui survint nous prêtant l'obscurité dont nous avions besoin pour marcher sûrement, nous voulûmes sortir du bois. Mais nous n'eûmes pas fait 100 pas que nous découvrîmes entre les arbres une lumière qui nous donna beaucoup à penser.
« Que signifie cela ? » dit Don Raphaël. « Ne serait-ce point les furets de la justice de Cuenza qu'on aurait mis sur nos traces et qui, nous sentant dans cette forêt, nous y viendraient chercher ?»«
Je ne le crois pas, » dit Ambroise. « Ce sont plutôt des voyageurs. » La nuit les aura surpris et ils seront entrés dans ce bois pour y attendre le jour.
Mais, ajouta-t-il, je puis me tromper. Je vais reconnaître ce que c'est. Demeurez ici tous trois. Je serai de retour dans un moment.
À ces mots, il s'avance vers la lumière qui n'était pas fort éloignée. Il s'en approche à pas de loup. Il écarte doucement les feuilles et les branches qui s'opposent à son passage. Il regarde avec toute l'attention que la chose lui paraît mériter. Il vit sur l'herbe, autour d'une chandelle qui brûlait dans une motte de terre, quatre hommes assis qui achevaient de manger un pâté et de vider une assez grosse outre qu'ils baisaient à la ronde. Il aperçut encore à quelques pas d'eux une femme et un cavalier attachés à des arbres, et un peu plus loin, une chaise roulante avec deux mules richement caparaçonnées. Il jugea d'abord que les hommes assis devaient être des voleurs. Les discours qu'il leur entendit tenir lui fit connaître qu'il ne se trompait pas dans sa conjecture. Les quatre brigands faisaient voir une égale envie de posséder la dame qui était tombée entre leurs mains, et ils parlaient de la tirer au sort. Lamela, instruit de ce que c'était, vint nous rejoindre et nous fit un fidèle rapport de tout ce qu'il avait vu et entendu. « Messieurs, dit alors Don Alphonse, cette dame et ce cavalier que les voleurs ont attachés à des arbres sont peut-être des personnes de la première qualité. Souffrirons-nous que des brigands les fassent servir de victimes à leur barbarie et à leur brutalité? Croyez-moi, chargeons ces bandits, qu'ils tombent sous nos coups. » J'y consens, dit Don Raphaël. Je ne suis pas moins prêt à faire une bonne action qu'une mauvaise. Ambroise, de son côté, témoigna qu'il ne demandait pas mieux que de prêter la main à une entreprise si louable, et dont il prévoyait, disait-il, que nous serions bien payés. J'ose dire aussi qu'en cette occasion, le péril ne m'épouvanta point, et que jamais aucun cavalier errant ne se montra plus prompt au service des demoiselles. Mais pour dire les choses sans trahir la vérité, le danger n'était pas grand. Car Lamela nous ayant rapporté que les armes des voleurs étaient toutes en un monceau à 10 ou 12 pas d'eux, il ne nous fut pas fort difficile d'exécuter notre dessein. Nous liâmes notre cheval à un arbre et nous nous approchâmes, à petit bruit, de l'endroit où étaient les brigands. Ils s'entretenaient avec beaucoup de chaleur et faisaient un bruit qui nous aidait à les surprendre. Nous nous rendîmes maîtres de leurs armes avant qu'ils nous découvrissent. Puis, tirant sur eux à bout portant, nous les étendîmes tous sur la place. Pendant cette exposition, la chandelle s'éteignit, de sorte que nous demeurâmes dans l'obscurité. Nous ne laissâmes pas toutefois de délier l'homme et la femme, que la crainte tenait saisis à un point qu'ils n'avaient pas la force de nous remercier de ce que nous venions de faire pour eux. Il est vrai qu'ils ignoraient encore s'ils devaient nous regarder comme leurs libérateurs ou comme de nouveaux bandits qui ne les enlevaient point aux autres pour les mieux traiter. Mais nous les rassurâmes en leur disant que nous allions les conduire jusqu'à une hôtellerie qu'Ambroise soutenait être à une demi-lieue de là, et qu'ils pourraient en cet endroit prendre toutes les précautions nécessaires pour se rendre sûrement où ils avaient affaire. Après cette assurance, dont ils parurent très satisfaits, nous les remîmes dans leurs chaises et les tirâmes hors du bois en tenant la bride de leurs mules. Nos anachorètes visitèrent ensuite les poches des vaincus. Puis nous allâmes reprendre le cheval de Don Alphonse. Nous prîmes aussi ceux des voleurs que nous trouvâmes attachés à des arbres auprès du champ de bataille. Puis, emmenant avec nous tous ces chevaux, nous suivîmes le frère Antoine qui monta sur une des mules pour mener la chaise à l'hôtellerie où nous n'arrivâmes pourtant que 2 heures après, quoiqu'il eût assuré qu'elle n'était pas fort éloignée du bois. Nous frappâmes rudement à la porte. Tout le monde était déjà couché dans la maison. L'hôte et l'hôtesse se levèrent à la hâte et ne furent nullement fâchés de voir troubler leur repos par l'arrivée d'un équipage qui paraissait devoir faire chez eux beaucoup plus de dépenses qu'il n'en fit. Toute l'hôtellerie fut éclairée dans un moment. Don Alphonse et l'illustre fils de Lucinde donnèrent la main au cavalier et à la dame pour les aider à descendre de la chaise. Ils leur servirent même d'écuyer jusqu'à la chambre où l'hôte les conduisit. Il se fit là bien des compliments, et nous ne fûmes pas peu étonnés quand nous apprîmes que c'était le comte de Pollan lui-même et sa fille Séraphine que nous venions de délivrer. On ne saurait dire quelle fut la surprise de cette dame, non plus que celle de Don Alphonse, lorsqu'ils se reconnurent tous deux. Le comte n'y prit pas garde, tant il était occupé d'autre chose. Il se mit à nous raconter de quelle manière les voleurs l'avaient attaqué et comment il s'était saisi de sa fille et de lui après avoir tué son postillon, un page et un valet de chambre. Il finit en nous disant qu'il sentait vivement l'obligation qu'il nous avait et que, si nous voulions l'aller trouver à Tolède, où il serait dans un mois, nous éprouverions s'il était ingrat ou reconnaissant. La fille de ce seigneur n'oublia pas de nous remercier aussi de son heureuse délivrance, et comme nous jugeâmes, Raphaël et moi, que nous ferions plaisir à Don Alphonse si nous lui donnions le moyen de parler un moment en particulier à cette jeune veuve, nous y réussîmes en amusant le comte de Pollan. « Belle Séraphine, dit tout bas Don Alphonse à la dame, je cesse de me plaindre du sort qui m'oblige à vivre comme un homme banni de la société civile, puisque j'ai eu le bonheur de contribuer au service important qui vous a été rendu. « Et quoi ? » lui répondit-elle en soupirant. « C'est vous qui m'avez sauvé la vie et l'honneur. C'est à vous que nous sommes, mon père et moi, si redevables. Ah, Don Alphonse, pourquoi avez-vous tué mon frère ?» Elle ne lui en dit pas davantage, mais il comprit assez, par ses paroles et par le ton dont elles furent prononcées, que s'il aimait éperdument Séraphine, il n'en était guère moins aimé.